voilà, arrivé donc sur cette revue de presse comics avec les nouveautés qui vont être en kiosque au mois d'avril. Enfin, en librairie plutôt, plus qu'en kiosque, puisque ça ne sort à une exception près dans ce qu'on vous propose aujourd'hui, pas en kiosque. On a donc toutes les sorties Marvel, DC, etc. qui ont été annoncées. Vous retrouvez évidemment tous les previews directement sur la page Aleph sur Facebook. Mais on vous a évidemment concocté une petite sélection des nouveautés donc chez les différents éditeurs que l'on va avoir ce mois-ci.
Alors je vois que tu as fait une sélection drastique sur les énormes, tous les titres qui sortent en comics, tu as été, tu y allais à la hache.
Ah ben en même temps, je suis un peu obligé, sinon je suis un peu mal barré pour vous faire parler de tout dans le petit quart d'heure qui m'est laissé pour ça.
C'est vrai.
Ah donc comme à chaque fois, je coupe en catégories, donc un peu Marvel DC, Image, Dark Horse et puis le reste de la profession. Et le reste, oui, c'est vrai, ça fait beaucoup d'éditeurs, mais
oui. Comment tu dédaignes les indépendants?
Je ne dédaigne pas les indépendants, mais
pour les petits travailleurs.
Toi, t'es les grands supermarchés, la jolie petite épicerie tenue par la vieille dame sympathique où tu achètes ton Coca à 4€. C'est important.
Bah ouais, mais enfin en même temps, s'il y avait elle pour faire vivre Coca, il serait déjà mort. Donc voilà, quand même, les gros éditeurs représentent quand même à eux deux, hein, si on parle juste des deux premiers, 85-90% de la production. Donc voilà, leur donner que la moitié de la place, c'est déjà un peu les dédaigner.
Faut se donner le côté branché, faut dire non, je fais 80% de romans graphiques qui font 5% de la production.
Ouais. Allez, on va commencer donc avec DC. Et chez DC, eh ben, il y a plus de choses à s'arrêter qu'à commencer d'ailleurs.
Ce qui est une bonne chose.
Ce qui est une bonne chose, ça dépend s'il y a des bonnes choses. Alors quand je vous parle de s'arrêter, ça ne s'arrête pas forcément complètement, puisque l'un des trois choses, c'est Action Comics 900. Alors, le 900e épisode, contrairement au 900 qu'on peut avoir chez Marvel, ce 900 fait suite au 899. C'est pas un 900 qu'on nous a inventé, venu de nulle part, juste pour faire des gros chiffres supérieurs aux autres. Non, Action Comics, le titre créé en 1938.
Toujours là.
Toujours
frais après des fortunes diverses.
Voilà, et qui retrouve un personnage qu'on avait créé occasionnellement pour le numéro 1, qui s'appelait Superman.
Ah oui, c'est vrai, tiens.
Et qui était parti depuis un certain temps.
De Action Comics?
Oui, c'était la série tournée maintenant sur Lex Luthor.
Ah, c'est vrai.
Et voilà, donc c'est un peu la fin de ce run sur Lex Luthor par Paul Cornell. On ne sait pas exactement ce qu'il en sera par la suite. Je vous parle un peu d'une fin parce que, comme beaucoup de titres d'ici, visiblement, il ne paraîtra pas en mai, juin, juillet. Dans le cadre d'un crossover qui s'appelle Flashpoint, et où il y a plein de mini-séries qui vont être lancées. Donc, si on regarde sur le planning, il y a quand même 14 mini-séries déjà lancées.
Ouais, 15, ils ont annoncé une 15e. Voilà. Mais c'est simplement sur mai, juin, juillet?
A priori, ce serait mai, juin, juillet.
C'est déjà pas mal.
Parce que le crossover s'étale sur 5 épisodes, donc je me suis dit que peut-être ils échelonnaient la chose.
Ah ouais, alors peut-être, mais en même temps, il y a des one-shots à sortir. On va voir comment ils vont l'organiser. Hein. Mais a priori, ce serait sur ces mois-là. En même temps, Action Comics, en étant en 900, c'est le moment idéal pour le suspendre. En plus, Action Comics donc s'intéresse plus à des personnages secondaires de l'univers Batman actuellement.
Superman.
On avait Jimmy Olsen plus Lex Luthor dans les deux histoires. Là, il y a une mini-série sur Lois Lane et la Résistance qui pourrait éventuellement prendre la suite de cette série.
Alors, quelle Résistance? J'ai lâché un peu les Action Comics. Hein.
Là, de toute façon, on n'en est que dans les sollicitations. Donc, en fait, Flashpoint, visiblement, c'est un monde sans Flash. Et il y aurait 14 mini-séries lancées qui remplaceraient d'autres séries. Okay. Visiblement, Green Lantern serait remplacé par Abin Sur, The Green Lantern.
En gros, c'est une sorte d'énorme what if, un peu à la Age of Apocalypse.
Oui, si Flash n'avait pas existé, en fait.
Voilà. Enfin, il y a tout, et puis il y a tout un truc, effectivement, je pense, vu les obsessions de Geoff Jones, au niveau des voyages temporels, est-ce qu'on tue le petit papillon, qu'est-ce que ça change, enfin, ce genre de choses.
Voilà. Et en fait, donc, il y a trois séries qui se passeront en Europe. Une sur Aquaman. une sur Wonder Woman et une sur Lois Lane.
D'accord.
Voilà, donc...
Eh bien, je suis bien content de l'apprendre.
Voilà. On a encore assez peu d'informations sur Flashpoint. Si on a plus d'informations d'ici 15 jours à l'occasion de la revue des presses, on transformera peut-être ça en revue Flashpoint. On verra en fonction des informations qu'on pourra vous apporter à cette occasion.
Alors, je tiens juste à préciser que pour les amateurs, que sur cette Action Comics 900, c'est effectivement scénarisé par Paul Cornell, mais on retrouve aussi Richard Donner et David Goyer, qui ne sont pas non plus des inconnus ou des manchots.
Mais aussi, et là tout le monde va hurler, Damon Lindelof.
Ah ! Quoi ? Pas lui !
Eh bien, c'est un des scénaristes principaux de Lost.
Notre ami. Non, et attends, il avait commencé avant avec la Nash Bridges quand même.
C'est vrai. Et donc, qui avait scénarisé entre autres Ultimate Hulk contre Wolverine.
Ouais, enfin, il en a. Ah non, il les a finis.
Il les a finis.
Après, un hiatus de deux ans. Donc, bon, on verra ça. Il y a deux autres séries qui s'arrêtent. Une qu'on pensait qu'il allait s'arrêter beaucoup plus tôt, qui est en fait Justice League Generation Lost.
Ah, par Judd Winnick en plus, voilà. Effectivement, c'est pas évident.
24 numéros sur le retour des personnages de la Justice League de Giffen de Matteis. Donc on s'attendait à ce que ça dure 6 numéros et en fait ça en a duré 24.
Oui, l'annonce n'était pas claire au départ, voilà. De DC, tout le monde pensait que c'était une mini-série alors que c'était vraiment une série complémentaire à
Brightest Day, l'autre série qui s'arrête.
Voilà.
Donc,
alors pour ceux qui n'auraient pas suivi ce Justice League Génération Lost, on suit donc l'une des équipes les moins puissantes de la Justice League.
L'époque bois.
Voilà, qui était drôle, mais qui effectivement, comparé à l'équipe de Batman, Superman, Wonder Woman, ont été carrément moins fortes, qui sont à la poursuite d'un de leurs anciens membres, qui est devenu un tueur depuis un petit moment, et qui s'est débrouillé pour faire oublier son existence à tout le monde. Voilà, et donc il y a juste les anciens équipiers qui se souviennent encore qu'il a existé. Voilà, je pense que j'ai résumé
assez
rapidement.
Bien la situation, voilà.
Et donc 24 numéros de tout ça, donc tous ces persos étant à la poursuite de Maxwell Lord, donc le méchant de service.
Celui qui avait Wonder Woman.
Voilà, que Wonder Woman avait tué.
Voilà, et donc l'autre série c'est Brightest Day, avec donc les suites là aussi de Blackest Night. Et donc des héros ressuscités qui essayent de comprendre pourquoi on les a ramenés à la vie.
Voilà, il faut savoir aussi que Blackest Night sort en ce moment en kiosque. Pour ceux qui suivent
la VF.
Ouais, là, voilà, les news d'ici en version française, je sais qu'il y en a. Si vous voulez lire un bon délire spatial du space opéra, lisez ce qui sort en ce moment chez DC, en français, chez Panini, donc les Blackest Night, hein, la nuit la plus noire.
Voilà, en espérant effectivement qu'ils arriveront à trouver un moyen de passer les Brightest Day derrière. Ouais. Ce qui est, bon, on peut toujours espérer, mais c'est pas forcément.
Au moins déjà la série n'est pas hebdomadaire, donc c'est peut-être déjà plus simple.
Ils en feront peut-être aussi deux monsters pour nous les passer en deux fois, ce qui est effectivement assez logique dans leur fonctionnement actuel.
Tout est possible.
Voilà. Et puis bon, il y a des nouveautés, il y a surtout des rééditions chez DC, et je ne pouvais pas passer à côté de ces deux rééditions. Qui ne sont pas totalement accidentelles, puisque dans le cadre de Flashpoint, on a aussi le grand retour d'Abnett et Lening chez DC. Et ce sont deux rééditions d'Abnett et Lening. Au cas où vous ne le savez pas, j'aime beaucoup Abnett et Lening, et j'aime surtout tout ce qu'ils ont fait sur la Legend of Super Heroes.
Il aime beaucoup répéter Abnett et Lening, on ne sait pas pourquoi, c'est comme un toc.
Et ce qui tombe bien, puisque les rééditions portent sur Legend of Super Heroes, voilà. Comme quoi il y a un lien.
Mais oui.
Avec, en plus, le premier, c'est une réédition d'une histoire qui n'était jamais rééditée, de manière assez incompréhensible. Abnett et Lening ont révolutionné la Legion of Super Heroes, qui était une équipe, à l'époque, quand même très gentillette, de jeunes ados. Et les jeunes ados en ont pris plein la face chez Abnett et Lening. Et dans une première histoire qui s'appelait donc Legion of the Damned, qui est donc celle qui est rééditée donc, dans DC Comics Present. Les quatre épisodes sont de toute beauté. Ils sont par un petit dessinateur qui est débuté, un Français qui commençait à percer aux États-Unis et qui s'appelle Olivier Coipel. Depuis, on en a un peu énormément entendu parler. Mais voilà, c'est quand même une grande période. Des épisodes absolument géniaux que je n'avais pas et que...
Tu vas avoir maintenant, en gros.
Que je vais avoir parce que la dernière fois, effectivement, j'ai cherché avec Alain, l'autre Alain, Et
le petit, on l'appelle.
Je les ai lus, ceux-là. Et là, j'ai fait, ah non, c'est l'autre Alain qui me les avait prêtés. Et une semaine plus tard, on m'annonce la réédition. Donc, voilà.
C'est vrai que ça ressemble un peu à un truc de Lost, cette émission. Au bout d'un moment, on comprend mal les ramifications.
Et voilà. Et on en arrive justement là où je voulais en venir.
À Legend Lost.
La deuxième réédition, Legend Lost.
Alors, pour résumer, il y a un affrontement entre deux Alain, c'est ça.
Voilà. L'un est mort, pas l'autre.
Et là, la réincarnation du Christ.
Un freluqué blanc, une baraque black, enfin, voilà. Que des caricatures. Tu vois,
et
un
des
peu.
Frites.
Baraque, des frites.
Bon. Et donc, Legend Lost, c'était effectivement 12 héros perdus dans l'espace.
Perdus dans l'espace.
Et voilà. Et qui
me rappelle un excellent film, Lost voilà. In Space, avec...
Et des cochons aussi.
Un beau navet.
Voilà. Et donc, ils ne savaient pas comment ils allaient revenir et ils étaient complètement perdus et désespérés.
D'où
et
le titre.
Voilà. Et donc, encore une des grandes périodes d'Amnette Lening, Olivier Coipel et Pasquale Alix pour les filines de la série. À lire absolument, là encore, si vous ne l'avez pas fait.
Et une petite question, il n'y aura pas de TPB de Legends World, qui est la série miroir de Legend Lost?
Alors, c'est possible que ça vienne après, sachant qu'effectivement, dans cette série, on avait un peu beaucoup de monde qui se succédait. On n'avait pas la même unité graphique que dans Legend Lost.
C'est bien vrai.
Voilà, donc c'était là sur le côté dépressif des héros qui étaient restés et qui n'étaient pas perdus et dont l'équipe était dissoute.
Voilà, d'où Legends World.
Ouais.
Bon,
ouais,
bref.
Voilà. Voilà. Donc c'était effectivement les nouveautés chez DC, dont le gros donc sera pour le mois prochain. Chez Marvel, on arrive dans le gros déjà.
Voilà, on arrive dans le très très gros, puisque encore un méga crossover de la mort qui s'appelle Fear Itself, donc on a tous très très peur.
Oui, c'est vrai en plus.
Et donc qui est scénarisé par Matt Fraction, donc celui qui est derrière Invincible Iron Man depuis le début de la renumérotation de la série, qui a repris dernièrement Thor avec Pasquale Ferry, et qui donc là s'attaque à un crossover en 7 parties.
C'est marrant parce que du coup Fraction il revient en grâce. Enfin,
il a toujours été assez apprécié chez Marvel. Excusez-moi, il a monté les échelons un petit peu plus lentement que Millar ou Bendis, mais il a toujours été en odeur de sainteté depuis qu'il est arrivé.
Parce que là, il est en train de truster effectivement pas mal de séries.
Voilà, alors en sachant effectivement que Millar quitte tout l'univers Marvel et pour se consacrer à ses propres séries.
Ce qui n'est pas de mauvaise nouvelle pour les lecteurs.
Voilà, il fallait quand même d'autres scénaristes, donc Brubaker, sachant qu'il ne s'occupe que de ses petites séries chez lui et tout machin, et que Jonathan Hickman, qui est une autre star mondiale, de chez Marvel n'avait peut-être pas encore assez implanté dans l'univers.
En sachant que Straczynski s'est barré.
Enfin, qu'ils l'ont un peu fait partir. Puisque justement, il refusait les crossovers avec sa série donc, qui était Thor à l'époque. Ouais. Et là, il base un crossover sur Thor. Donc, ce qui comprend un petit peu. Enfin, bref. Oui, puisque. Alors,
il avait Thor à l'époque.
Non, il a peut-être raison, Straczynski, sur le coup.
Il a peut-être pas raison partout, mais là. Ouais. Et donc, ce crossover, donc la peur elle-même s'intéresse au dieu de la peur asgardien.
Ah bon?
Et oui, a priori, ce sera ancré sur le. Enfin, on pense. Ben c'est pas le fils de d'Ares qui est dans les Secret Warriors?
Peut-être, je ne sais plus.
Le petit gamin.
Phobos?
Ouais, le petit.
D'accord.
Il semble que c'est lui.
Il n'est pas asgardien?
En tout cas, il y a plein de. C'est pas très très clair encore, mais on se doute que Thor est au milieu du truc. Donc, alors par contre, excellente nouvelle, c'est dessiné par Stuart Timonen. Donc, au moins, ce sera beau, ce sera lisible.
Et ça sortira à l'heure.
Ça sortira à l'heure en plus, puisqu'on se souvient tous de Civil War avec ses retards. Enfin, on s'en souvient beaucoup moins maintenant, mais à l'époque, ça avait quand même énormément gueulé.
Oh, ouais.
Et donc voilà, donc encore un gros crossover qui tâche, de quel on va parler autour d'une bière. Est-ce que t'as lu le dernier Fear Itself? Oh mon dieu, mais c'est ignoble. Et donc ça.
Là, on sortira comme la dernière fois. Ouais, par contre, bon, le home front de Christoph Gage, ça c'est lisible.
Oui. Voilà. Oui, voilà, ça a toujours été le cas de cette donc série qui a été créée pour accompagner les gros événements, donc qui était. Alors au départ, c'était par Jenkins et je ne sais plus comment ça s'appelait.
Alors.
Frontpage, non?
Ouais, Frontpage, non?
Non, c'était sur le magazine.
C'était
ça remplaçait The Pulse.
Voilà.
et ça s'appelait Frontline.
Frontline.
Voilà. Front et donc page, là, Homefront. Voilà. Et donc c'est de. Donc encore une série qui s'intéresse au regard du journaliste sur tous ces événements, qui va être scénarisé donc par Christophe Gage et Peter Milligan, donc qui revient un petit peu aussi chez Marvel, dessiné par Mike Mayhew, Elia Bonetti, on sait toujours pas qui c'est.
Enfin, en espérant qu'elle est bonne.
Je me suis empêché de la faire.
C'est ça qui est beau, c'est que tu penses à un jeu de mots, tu dis non, je vais pas le faire, et quelqu'un le fait quand même.
C'est
les débuts de la télépathie, les enfants.
On va essayer d'être plus productif en télépathie, parce que là, c'est vrai que ça n'est pas exceptionnel. Donc, on verra ce que Dan Fury le sait. C'est quand même un truc inédit et jamais vu. C'est quand même le retour de Red Skull et sa fille.
Ouais, ça, si on m'avait dit qu'il reviendrait. J'y aurais pas cru.
J'aurais dit non.
Surtout pas pour être l'événement de l'année.
Ouais.
Voilà. Donc l'autre événement de l'année, pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est qu'il va y avoir un film Thor.
Oui.
Bah écoute, j'ai assez envie.
Moi je lui donne espoir. C'est voilà. Kenneth Branagh.
Ouais.
Sauf que en parallèle, on va manger du Thor à toutes les sauces.
Mais pourtant manger du Thor.
Et donc la série Thor s'arrête.
Et maintenant en Allemagne, ils lancent le film de Thor.
Oh là 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 là, c'est une formidable soirée.
On entendra la coupe au montage, celle-là aussi. Et donc voilà, Malfraction quitte Thor au 621 et la série redevient une journée into mystery à partir du 622.
Et oui, écrit en plus par Kieron Gillen.
Avec des dessins de Wes White.
Ah, ça par contre, c'est bien.
Et des couvertures de Stéphanie Hans, donc la nouvelle petite française qui arrive dans le monde du comics.
On va prendre cher.
C'est Loki qui sera le personnage principal de cette série. Donc, rappelons que Journey into Mystery, c'est le titre original de la série jusqu'au numéro 84, je crois. qu'ensuite, c'était devenu Thor. Que Thor s'était arrêté au numéro 502 et du 503 au 522, la série était donc redevenue Journey into Mystery avant de s'arrêter faute de vente. Avec 2-3 calculs à la mort moelleux, DC avait relancé la série à partir du 600 et la relance maintenant. Donc voilà.
Oui, c'était un peu compliqué pour pas grand-chose.
Ouais,
exactement. Voilà. En parallèle, donc, il relance une nouvelle série, The Mighty Thor.
Avec Matt Fraction au scénario,
était donc déjà le scénariste. Il est là avec Olivier Coipel, autre français dont j'ai déjà parlé dans cette presse. Et donc, eux deux vont reprendre donc, la série au numéro 1. On ne sait pas encore, il paraîtrait que Ferry pourrait peut-être revenir après cette première histoire par Coipel.
Apparemment, Ferry n'étant pas le plus rapide et Coipel non plus, il ferait un arc sur deux, ce qui, pourquoi pas. Enfin, j'ai une nette préférence pour Ferry, mais Coipel est quand même un dessinateur honnête.
Ah voilà,
je suis méchant avec lui quand même, la coupe est pleine. C'est pas grave.
Ami du calembour, bonsoir. Donc, alors, quand même, il faut dire qu'il y aura quand même une variante cover de Walt Simonson sur du Thor, ça fait toujours plaisir.
Et puis Troy Charest aussi, en variant.
Oui. C'est-à-dire que maintenant, il arrive à faire une couverture par mois, je crois qu'il pourrait pas faire un dessin de plus, même si sa vie en dépendait.
En même temps, comme la couverture est déjà faite, qu'on l'a déjà en previews, on sait que ça ne sera pas retardé pour la couverture de Charest.
Effectivement.
Et puis bon, Charest est en thérapie aussi. Son défi, c'est une couverture par mois. Bon, bah voilà, je veux dire. Charest, tu nous as bien déçus.
Ah bah. Ça...
Ouais, mais. Enfin, je trouve.
Et encore, tu t'appelles pas Jodorowsky. Bon, toute méchanceté mise à part, on va passer à la suite. Et on arrive chez Image, où un autre petit nouveau revient. Non,
je remarque juste que tu as passé sur Super Dinosaur et puis...
Oui, c'est vrai, ça. Oui,
non, mais ça arrive.
Ça arrive, excusez-moi.
C'est du Image.
J'ai spoilé.
Super Dinosaur, c'est justement la série de Robert Kirkman.
Ah, c'est triste.
Avec Jason Howard, avec qui il avait fait Wolfman.
Voilà, donc qui est sorti en France dernièrement. On va passer là-dessus. Et qui donc relance une nouvelle série, Super Dinosaur. Voilà,
c'est un Super Dinosaur avec des armes partout.
Énorme concept.
Avec une espèce de Nono le petit robot revu et corrigé pour l'occasion. Et donc,
Mecha Denver.
Voilà, c'est un peu ça. Et le sort du monde libre dépend d'un jeune garçon de 10 ans et de son meilleur ami, un tyrannosaure
De combat.
De combat, qui adore les jeux vidéo.
Parce que de base, le tyrannosaure, il a un peu de combat quand même.
Il a des tout petits bras.
Là, il a des grands bras, il a des canons partout. Enfin.
Faut quand même qu'il se méfie parce que Whoopi Goldberg, T-Rex, ça lui a foutu sa carrière en l'air, le dinosaure. C'est dangereux.
Oui, puis ils sont éteints, il y a une bonne raison. Hein.
S'ils sont plus là.
Voilà, donc dans les autres choses qu'on peut noter chez Image, alors c'est toujours des séries qui se lancent, hein, on peut pas savoir ce qui va être forcément parfait ou pas.
Enfin, après, on a des gros doutes quand même. Hein, voilà.
Bah, c'est du Kirkman en même temps, même si on est sceptique sur le concept, par n'importe qui d'autre, j'aurais pas suivi, mais c'est Kirkman et ça donne envie au moins de tenter l'aventure.
C'est beau le fanboyisme.
Mmh. Voilà. L'autre série qui m'a marqué chez Image Centrale, c'est Undying Love. Alors, une série d'horreur action dessinée par Tom Cocker.
Oh, Tom.
Et le fait d'avoir du Tom Cocker, ça donne quand même un peu envie de voir. C'est quand même pas un dessinateur très très courant dans le métier.
Bah là, il va sortir un one-shot avec Peter Milligan sur la série Five Ronin. Donc, c'est un peu bizarre de le revoir. Et alors, il me semble qu'il était parti un moment réaliser un film. Je peux me tromper. Et voilà. Donc
il revient, il n'est pas content.
Oui, c'est un peu ça, je pense. Donc,
un jour, peut-être, nous fera-t-il la deuxième mini-série de Blood and Water avec. Très sympa à lire. Et donc voilà, il y avait une deuxième série qui avait été écrite par Winnie qui devait faire et on ne l'a jamais vu arriver.
Je lis quand même le résumé parce que moi, je lis le truc, ça me donne envie quand même. C'est une histoire d'horreur action établie entre la mythologie du vampire et le folklore chinois et qui se passe dans le Hong Kong moderne.
Donc il y aura sûrement un tueur avec deux flingues.
Voilà, il y aura certainement un tueur avec deux flingues et il y aura certainement
et des colombes.
Et des colombes au ralenti d'ailleurs. Il y aura trois cases de colombes.
Voilà, sinon ça n'a aucun intérêt.
Avec une église en ruine, forcément. Forcément.
Ouais. Là, on va passer à la suite parce que vous allez devenir méchant et je voudrais éviter ça. La troisième série que j'avais notée, c'est Netherworld numéro 1. Parce qu'enfin, depuis le temps qu'on nous en parle, Topco et Heroes and Villain Entertainment ont réussi à nous pondre un comics.
Alors, c'est qui est Heroes and Villains Entertainment ?
Alors, c'est une boîte qui a décidé de faire de la licence dans tous les médias en même temps. Dans le style, on va relancer des séries télé, des films, des comics, des jeux vidéo, tout ça en même temps sur les mêmes concepts. En gros, on lance des licences et tout le monde va les exploiter en même temps pour que ça devienne un truc énorme. Ça fait 6 mois, 1 an qu'on en entend parler. Ils nous ont fait un preview, ça n'avait rien de sorti. Et la première série s'appelle Netherworld. Voilà, donc on va attendre de voir si ça tient vraiment toutes les promesses qu'on avait eues.
Juste qu'ils ont mis le paquet hein, sur les scénaristes de ce type hyper connu.
Bah, Brian, c'est eux-mêmes en même temps.
Voilà, Brian Edward Hill, Rob Levin. Alors c'est wouhou. Et en dessinateur, Tony Shuster et J.D. Mittler. Franchement. J'ai envie de dire.
Qui sommes-nous pour dire non ?
Voilà, qui sait déjà. Voilà.
Mais bon. Non, mais la couverture en elle-même laisse à penser que techniquement ça doit pouvoir se tenir. Sauf que c'est très délicat de juger sur une couverture. Des gens qui ont fait des couvertures acceptables et des intérieurs un peu miteux, on en connaît des tas.
C'est ça, ouais. Il y a une liste. Elle est longue.
Ouais. Mais bon, au moins ça, ce n'est pas un projet commercial.
Contrairement à
ce que peuvent nous sortir certains indépendants, dont Dynamite, avec l'inespéré,
l'inattendu
Danger Girl contre Army of Darkness.
Et Army of Darkness, ils vont certainement se battre ensemble.
Ou les uns contre les autres.
Voilà, donc. Mais écoutez, j'ai pris la parole, mais en même temps, je ne sais pas comment dire. Là, je reste un peu sans voix.
Alors, est-ce que tout le monde connaît Army of Darkness, j'ai envie de demander.
Oui. Oh, quand même.
Je ne sais pas.
Donc, Army of Darkness, qui est donc le. Bah, ce qui a découlé, en fait, de la série de films Evil Dead de Sam Raimi. Donc, avec Ash en premier lieu
et sa main
tronçonneuse.
Le Evil Dead 3, exactement. Celui où il affronte les squelettes.
Exactement.
C'est triste.
Oh non, moi j'ai bien aimé.
Oh, il est bien le Evil Dead 3. Oui, c'est peut-être même celui que je préfère.
Ah, j'aime pas.
J'aime bien le côté Harryhausen. Je trouve que les deux autres.
Ouais. C'est pas trop au sérieux. pas le premier, mais ouais, bref, passons.
Voilà. Dolls Girl, donc, et donc Evil Dead, en gros.
Alors, en plus, c'est écrit par la star. Wow. À l'origine de la série Danger Girl.
Ah bon?
Andy Hartnell.
Oui, et qui écrivait, qui écrit pas mal de Army of Darkness aussi, il me semble.
C'est possible. En même temps, personne n'y regarde. Bon, il y a une couverture de Paul Reynaud. Si vous en achetez 10, vous aurez peut-être une chance d'avoir la bonne. Mais franchement.
Ah, alors pour le coup, moi j'aime beaucoup Nick Bradshaw, qui a dessiné les deux séries, qui avait un style très cartoony, qui est maintenant un style qui s'inspire énormément, j'allais dire, de Bryan Adams, Arthur Adams.
Everything I do it for you. Et voilà.
Ce magnifique chanteur canadien.
Fabuleux.
Trop rare, trop
la
rare.
La semaine prochaine, BO.
Que j'adore dans ses clips, il y a toujours son chien.
L'amour.
À la demande générale, la semaine prochaine, on fait une BO avec du Bryan Adams toute la mission. Hein?
On est d'accord. On va trouver le sujet qui sont liés avec.
Un petit John Bon Jovi aussi pour finir.
Un Green Euro peut-être, ouais.
Ouais.
Bon bref, passons.
Donc voilà, donc ça c'est un peu le truc hyper commercial qui fait sourire. Et puis il y a quand même le retour aussi d'une grande star chez Archie Comics.
Betty, Véronica.
Megaman
ah, oui. Revient avec une série comics, on en rêvait tous. Ouais. Megaman.
Qui est-ce?
C'est voilà, donc ce personnage de jeu vidéo.
De Capcom, société derrière Street Fighter 2. Et Megaman, c'était le héros des jeux de plateforme sur NES. Principalement, ça avait été lancé. Et ça ressemble à un Astro le petit robot, faut le dire carrément. Avec, il y a des rayons laser et tout. Alors, les jeux, c'est vraiment des jeux. Ça m'étonne parce que moi, je suis pas un professionnel comics. C'est comme des jeux très spécialisés pour le coup, les Megaman, normalement, avec un public assez restreint. Donc, mais ça, c'est un peu la surprise.
Temps,
ça doit marcher aux États-Unis.
Ils éditent déjà Sonic, hein, avec deux séries mensuelles.
Mon Dieu.
Donc ils savent aussi dans quoi ils se lancent.
Dans quoi ils mettent le pied.
C'est amusant de voir le marché américain parce que c'est comme le film des frères Wachowski où on s'aperçoit qu'il y a des séries ou des choses qui marchent pas du tout.
Speed Racer
qui était hyper connu aux États-Unis, qui n'était pas connu chez nous. Et Megaman, c'est chez nous, c'est pas une icône.
Mais c'est comme la bataille des planètes par exemple, qui est super connue là-bas et qui chez nous.
Ouais, la force G quand même. Ouais. C'est la fin.
La bataille des planètes. Il y a pas mal d'épisodes qui sont passés.
Ouais, c'est
vrai. Comme le vif argent, plus brillant que le vif argent, c'est la force G. Mais bon, revenant, Megaman n'est pas hyper connu, mais bon, c'est quand même un personnage qui n'a pas grand background, donc c'est un peu bizarre de le voir adapté en comics.
On a quand même eu du Green Hornet, alors que on n'a pas la moitié de ce qui a été fait sur Green Hornet qui était sorti en France. Enfin, la dernière série télé, elle n'est jamais passée en France. La dernière, elle n'est pas repassée depuis 86. Enfin, autant dire que... Voilà, hein.
C'est triste.
Green Hornet, oui, c'est pas... Ça, je m'étais...
Non, mais quand il y a 25 ans qu'on n'avait pas vu en France...
Et que là,
on n'a jamais eu les feuilletons radio, mais ça, à la limite, c'est logique. On n'a jamais eu... la deuxième série, elle est passée à l'époque sur Canal+, et ensuite sur M6, au moment où ils se lançaient. Et puis ça fait 25 ans qu'ils n'ont pas osé le repasser. Ils osent toujours nous passer la petite maison à Paris, ça ils osent même plus. Donc faut dire que voilà. Enfin, donc
il y avait
voilà.
Bruce quand même.
Il y avait Bruce quoi.
Il y avait Bruce.